première année de Darius, fils d'Assuérus, de la semence des Mèdes, qui fut fait roi sur le royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les livres que le nombre des années touchant lequel la parole de l'Éternel vint à Jérémie le prophète pour l'accomplissement des désolations de Jérusalem était de 70 années. Et je tournai ma face vers le Seigneur Dieu pour le rechercher par la prière et la supplication dans le jeûne et le sac et la cendre. Et je priai l'Éternel mon Dieu, et je fis ma confession, et je dis, « Je te supplie, Seigneur, le Dieu grand et terrible, qui garde l'alliance et la bonté envers ceux qui t'aiment et qui garde tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons agi méchamment, et nous nous sommes rebellés, et nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Et nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes, qui parlaient en ton nom à nos rois, à nos princes, et à nos pères, et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, la justice, et à nous la confusion de face, comme elle est aujourd'hui. Aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause de leurs infidélités par lesquelles ils ont été infidèles envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos princes et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Au Seigneur notre Dieu sont les compassions et les pardons, car nous nous sommes rebellés contre lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour marcher selon les lois qu'il a mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Et tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné en n'écoutant pas ta voix. Alors ont été versés sur nous l'exécration et le serment qui sont écrits dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre lui. Il a accompli ses paroles qu'il a prononcées contre nous et contre nos juges qui nous jugeaient, en faisant venir sur nous un mal si grand que rien n'est fait sous tous les cieux comme ce qui a été fait à Jérusalem. Selon qu'il est écrit dans la loi de Moïse, tout ce mal est venu sur nous. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu, afin de revenir de nos iniquités et de comprendre ta vérité. Et l'Éternel a veillé sur le mal et l'a fait venir sur nous. Car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les œuvres qu'il a faites, et nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte à main forte et qui t'es fait un nom, comme il paraît aujourd'hui, nous avons péché, nous avons agi méchamment. Seigneur, selon toutes tes justices, que ta colère et ta fureur se détournent, je te prie, de ta ville de Jérusalem, ta sainte montagne. Car à cause de nos péchés et à cause des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Et maintenant, écoute, ô notre Dieu, la prière de ton serviteur et ses supplications, et pour l'amour du Seigneur, fais luire ta face sur ton sanctuaire désolé. Incline ton oreille, ô mon Dieu, et écoute. Ouvre tes yeux et vois nos désolations et la ville qui est appelée de ton nom. Car ce n'est pas à cause de nos justices que nous présentons devant toi nos supplications, mais à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif et agis. Ne tarde pas à cause de toi-même, mon Dieu, car ta ville et ton peuple sont appelés de ton nom.
Les frères qui ont proposé ce sujet avaient devant eux l'idée que le mot de humiliation n'est peut-être plus compris qu'on l'emploie comme cela, par habitude. Et nous avons donc proposé ces deux passages, celui-ci que nous venons de lire, celui que nous lirons cet après-midi, pour mettre devant nous des hommes de Dieu qui se sont humiliés pour leur peuple, pour eux-mêmes d'abord, ensuite pour leur peuple. Car nous sommes dans un temps d'humiliation et il est évident que ce serait... Nous avons à suivre le même chemin. Même chemin aussi bien que Daniel, aussi bien qu'Esdras. Daniel était dans la confusion à Babylone, mais la chrétienté est dans la pleine confusion, bien entendu. Esdras faisait partie du résidu remonté à Jérusalem, mais ce résidu, après une période de fidélité, était retombé dans le péché, dans le péché des nations, et Esdras donc s'humilie pour ce peuple qui était là. Et c'est pourquoi nous avons mis ces textes devant les yeux des frères. Daniel avait été déporté avec le peuple à Babylone lors de la prise de Jérusalem, la quatrième année de Jéconia. Et il était jeune, c'était un adolescent, sans doute, un jeune homme, tout moins. Nous voyons au début, je crois, du texte, Daniel 1er, la troisième année du règne de Jéhoiakim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint à Jérusalem et l'assiégea, et le Seigneur livra en sa main Jéhoiakim, roi de Juda. Et il y a eu donc une transportation de ceux qui habitaient là, des Juifs. Et au chapitre 3, nous voyons, « Et le roi dit à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener d'entre les fils d'Israël et de la semence royale et d'entre les nobles, des jeunes gens en qui il n'y eut aucun défaut, beaux de visage, instruits dans toute sagesse et possédant des connaissances et entendus dans la science et qui fussent capables de se tenir dans le palais du roi. » C'était donc des jeunes gens et... qui avait, on peut penser, pas eu part au péché du peuple pour lequel l'Éternel déportait son peuple. Pas eu part, mais il faisait partie du peuple. Et alors il subissait le châtiment que le peuple avait attiré sur lui par son idolâtrie. Il y avait une responsabilité collective là, et ceux-là, même les jeunes gens, n'étaient pas épargnés dans ce châtiment qui tombait sur eux. Et voilà Daniel à Babylone, donc, et nous savons comment il a vécu, nous savons en partie comment il a vécu à Babylone et comment il a été manifestement un homme de Dieu à Babylone. Et puis il comprend par les livres. Il pense que c'est important de souligner cette expression « je compris par les livres ». Que le nombre des années touchant lesquelles la parole de l'Éternel vint à Jérémie le prophète pour l'accomplissement des désolations de Jérusalem était de 70 années. Ce qui donc montre qu'il lisait, la parole de Dieu. Jérémie en particulier, qui avait vécu quelques dizaines d'années auparavant, Et parce qu'il lisait la parole de Dieu, eh bien, il comprenait le dessein de Dieu, la pensée de Dieu. Et il est évident que nous-mêmes aussi, si nous lisons l'Écriture, si nous nous attachons à lire l'Écriture, à l'étudier, à la méditer, à nous en nourrir, nous comprendrons la parole de Dieu, nous comprendrons ce qu'il veut nous dire. Alors que si nous négligeons cette parole, eh bien nous ne comprendrons rien. Nous marcherons comme des aveugles, tout en ayant la responsabilité de voir, puisque je parle pour les croyants. Nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu le Saint-Esprit et nous sommes donc en mesure d'entendre la voix de Dieu et de comprendre la voix de Dieu. C'est pourquoi la lecture de la parole personnelle, collective, est de toute importance. Il nous faut être nourris de la parole. Il nous faut la lire et la relire. Nous n'aurons pas d'autres révélations. Tous ceux qui proposent d'autres révélations sont des faux docteurs. Nous n'aurons pas d'autres révélations que celles que nous avons en main Et nous avons une révélation considérable et entière. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est la parole de Dieu. Genèse, c'est le commencement. L'Apocalypse, c'est révélation de ce qui arrive à la fin. Nous avons donc la révélation de tout le dessein de Dieu du commencement à la fin.
Il semble bien que quand, en effet, Daniel a été déporté, il était très jeune, peut-être 14 ans, pas plus. Évidemment, la tentation était forte pour lui de suivre un chemin qui paraissait, et qui était, aux yeux du monde, un chemin privilégié, puisqu'il est choisi avec d'autres jeunes gens pour être instruit de toute la science qu'il y avait dans ce pays-là. Mais chacun se souvient certainement que, tout en étant très seul, puisqu'il était séparé de sa famille, séparé de tout ce qui avait été sa vie jusqu'à ce jour, séparé, on peut dire, semblait-il à jamais, de Jérusalem, du Temple, enfin, placé dans des circonstances, on pourrait dire, extrêmement défavorables, sur le plan humain, dans sa foi et avec ses compagnons, il arrête, vous le savez, dans son cœur, de ne pas se souiller avec les mets délicats du roi. Et au risque d'y perdre la vie, il tient ferme. Et Dieu l'a béni. Il l'a béni d'une façon tout à fait remarquable. Je pense qu'il n'y a pas dans la parole de Dieu le récit d'un homme de Dieu, on pourrait dire sans faille, comme lui. Et c'est tout à fait frappant de lire son histoire. Le livre de Daniel couvre une période d'environ 73 ans. Et en fait, c'est tout à fait frappant de voir qu'il n'a jamais même revu ça en son pays. La terre de ses pères. Mais il a été pour Dieu un témoin fidèle à travers toutes sortes de renversements. Il a vécu, on pourrait dire, l'avènement de Babylone, et il en a vécu aussi la chute. Et il a vu aussi l'arrivée des Mèdes et des Perses qui ont pris la suite de ce premier empire. Mais ce que je pensais tout à l'heure à un verset que nous avons lu hier à Bordeaux, et un frère nous a lu ce verset, et je pensais qu'on pourrait l'appliquer à Daniel. C'est dans le psaume 92. Il est dit au verset 12, « Le juste poussera comme le palmier, il croîtra comme le cèdre dans le Liban. Ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel fleuriront dans les parvis de notre Dieu. Ils porteront des fruits encore dans la blanche vieillesse, ils seront pleins de sève et verdoyants. » Et je lis ces versets parce que quand nous arrivons dans le chapitre 9 de Daniel, il est clair qu'il est déjà très avancé en âge, mais toujours fidèle. Il semble que cela est arrivé, cette confession de Daniel s'inscrit dans la première année de Darius, sans doute avant ou après le moment où Daniel, une fois de plus, pour sa foi, est jeté dans la fosse aux lions. Scène que chacun de nous apprend dès l'enfance, mais qui est de nature quand même à nous montrer ce que c'est que la fidélité au Seigneur. Il était pourtant à ce moment-là, si on peut dire sur le plan humain, quelqu'un de considérable, mais en un instant, tout est jeté par terre, et Daniel, souffrant pour sa foi, est jeté dans cette fosse au lion où Dieu le délivre. Eh bien, voyez, il porte du fruit dans sa blanche vieillesse. Chers amis, nous pouvons bien demander au Seigneur qu'il nous accorde, à quelque moment que nous soyons dans notre vie, cette fidélité que le Seigneur attend des siens, qui sont en effet fondés sur la parole de Dieu, qui connaissent leur Dieu. On peut remarquer en passant que Daniel a été très longtemps connu comme un homme de prière. Et certainement, nous avons beaucoup besoin de nous en souvenir. Et puis ici, dans ce chapitre, nous verrons que ce qui était sa, si on peut dire, non seulement sa lecture habituelle, mais je dirais presque sans doute exclusive, c'était la parole de Dieu. Et ce sont des choses dont nous avons certainement besoin de retrouver beaucoup le chemin. Beaucoup le chemin.
On pourrait dire que nous ne sommes pas des Daniels, parce que Daniel, en effet, a eu des révélations que nous n'avons pas ambitionnées, des révélations de secrets, de rêves. Il a une vie et qui nous émerveille, mais nous sentons bien que nous n'en sommes plus à cette époque-là. Alors on pourrait dire, Daniel, c'est Daniel, nous ne sommes pas des Daniels. Eh bien, justement, ce Daniel qui a eu des révélations prophétiques, en tant que prophète, concernant un avenir lointain, lorsqu'on le voit quand il fait état de ses semaines, eh bien, justement, quand il s'agira d'événements plus immédiats, qui concerneront le peuple et qui le concernent lui, mais ce n'est pas par des révélations surnaturelles qu'il les aura, c'est précisément en la lecture des Écritures. Et alors, nous n'avons pas, nous, à faire ce genre de démission, de dire « nous ne sommes pas des Daniels ». Nous avons la parole de Dieu, c'est ce qu'a dit notre frère tout à l'heure, c'est important. Il y a une autre chose aussi que je voulais citer. Eh bien, il y a une petite similitude qu'on pourrait remarquer, parce que Daniel va subir a subi le sort du peuple, alors que le peuple est coupable, pas lui. Lui n'est pas coupable. On l'a mis en relief, en effet, sa fidélité, aussi bien pendant la captivité que certainement avant. Donc, il subit cette captivité alors qu'il n'est pas coupable lui-même. Nous avons aussi un autre exemple, c'est l'exemple de Josué et de Caleb. Eux qui ont manifesté au contraire une foi en contraste avec l'incrédulité de tout le peuple, eh bien, ils ont subi lui aussi les 40 ans dans le désert supplémentaire. Voilà, c'est quelque chose qui peut se transposer dans notre vie d'assemblée maintenant.
Il y a quelque chose de remarquable concernant Daniel. Il n'a pas lu simplement la première année de Darius. Il avait l'habitude de lire. Il allait habituellement avec Dieu. Il ne concevait pas sa vie sans Dieu. Il avait probablement lu ces passages de Jérémie 25 et 29 avant ce moment-là. Mais à ce moment-là, Dieu, en quelque sorte, lui en montre le sens. Il y a donc chez Daniel cet attachement aux choses de Dieu, à la parole de Dieu, et en même temps cette simplicité, cette honnêteté spirituelle qui fait qu'il lit, qu'il attend que Dieu le lui montre, et lorsque Dieu lui montre quelque chose, il y entre. Ce qui est remarquable, c'est que nous ne voyons pas de recherche personnelle, nous voyons une lecture attentive, un besoin de vivre avec Dieu et une disposition permanente à entrer dans ce que Dieu lui montre. Et il faut reconnaître que aujourd'hui, avec les capacités intellectuelles auxquelles on donne beaucoup d'importance, on perd cette simple disposition. Être devant Dieu tout petit, conscient de ses limites, heureuse avec lui, lire la parole de Dieu, se laisser instruire, admettre très volontiers que nous sommes passés de nombreuses fois sur un passage sans en saisir tout le sens, et que lorsque Dieu, à un moment donné, montre le sens d'un passage que nous avons lu de nombreuses fois, eh bien être disposé à dire « Mais voilà, Dieu le montre maintenant ». Il faut donc vivre cela maintenant. Voilà une heureuse disposition qui constitue une solide instruction pour nous.
Il n'y avait pas que cette prophétie de Jérémie qui était devant Daniel. Notre frère a cité le passage de Jérémie 25, mais je pense qu'il est intéressant pour les jeunes de le lire, en particulier verset 11 de ce livre de Jérémie. Puisque c'est ce qui nous intéresse ici. Tout ce pays sera un désert, une désolation, ces nations serviront le roi de Babylone 70 ans. Également, nous pouvons dire que Daniel avait devant lui toute la parole de Dieu. On le trouve cela au verset 13. Il peut dire ceci, « Selon qu'il est écrit dans la loi de Moïse, tout ce mal est venu sur nous. » Et en effet, Daniel connaissait, lisait toute la parole de Dieu. Et il est important pour nous de lire toute la parole. Et pour cela, pour bien s'en convaincre, lisons dans le livre du Lévitique au chapitre 26, versets 14 à 16. « Mais si vous ne m'écoutez pas, si vous ne pratiquez pas tous ces commandements, si vous méprisez mes statuts, si votre âme a en horreur mes ordonnances, de sorte que vous ne pratiquez pas tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, moi aussi je vous ferai ceci. J'ordonnerai sur vous la frayeur, la consomption, la fièvre qui consumeront vos yeux, vous feront défaillir votre âme, etc. » Donc ce Daniel avait toute la parole devant lui. Et alors pour nous se pose la question, mais cette loi dont nous allons certainement être occupés aujourd'hui, cette loi est-elle pour nous? Cette humiliation que recherchait Daniel est-elle pour nous? Eh bien, je voudrais simplement d'abord, en rapport avec cette loi, lire un verset dans l'Épître aux Galates. Épître aux Galates, et ce verset qui résume ce qu'est pour nous la loi maintenant. Galates 3, verset 23. Avant que la foi vînt, nous étions gardés sous la loi, renfermés pour la foi qui devait être révélée, de sorte que la loi a été notre conducteur jusqu'à Christ, afin que nous fussions justifiés sur le principe de la foi. La loi a été notre conducteur jusqu'à Christ.
C'est possible de dire encore quelques mots sur Daniel. On vient de nous dire que Daniel était là dans ce chapitre 9 à la fin de sa vie. Il a peut-être 85 ans. C'est à ce moment-là qu'il est question pour lui d'humiliation. Et on nous a parlé un petit peu de sa vie depuis l'âge de 14 ans environ. Mais si on regarde au début de ce livre, on peut dire que jusqu'à cet âge-là, il a été avec ses parents. Et c'est normal que dans les premières années de sa vie, si on est un enfant de chrétien, de marcher un petit peu avec la foi de ses parents. On est là dans la sphère familiale. On aime le Seigneur Jésus parce que nos parents aiment le Seigneur Jésus. C'est normal, c'est la vie normale. Et puis à un moment donné, il faut décider pour soi. Et là, en quelque sorte, Daniel a été éloigné de sa famille, de cette sphère de bénédiction. Il se retrouve tout seul avec quelques camarades. Et en quelque sorte, ça peut nous dire aussi, tiens, à 14 ans, 12, 13, 14, il va falloir que je sois seul devant Dieu pour décider. J'ai entendu des choses, je me suis associé à la joie de mes parents, parler du Seigneur Jésus, mais finalement, maintenant, c'est à moi de décider. Où est-ce que j'en suis? Et un peu, c'est cette démarche qu'on trouve au début de ce livre de Daniel. Et Daniel va donc avoir à faire un choix, non pas en fonction de ses parents qui seraient près de lui, non, mais tout seul, maintenant. Qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que j'ai reçu pour moi-même, au fond de moi-même, qu'est-ce que je vais en faire? Et alors, c'est un bel exemple pour nos enfants là, qui sont là, il y en a beaucoup. Peut-être là, tu as 14 ans, comme Daniel. Et finalement, si tu es là comme Daniel, qu'est-ce que tu peux dire si Dieu te demande quelque chose? Dans le monde où tu vis, quelle est ta détermination? Et alors, Daniel est un bon exemple ici, il arrête dans son cœur, il y a comme une décision. Et à un moment donné, il faut décider quelque chose. Et alors, là, le voilà dans un choix qui semble pas facile pour lui au départ. C'est pas simple. Mais s'il a fait ce choix, c'est qu'il a une raison. Parce qu'il connaît celui pour lequel il prend cette décision. et c'est son Dieu. Alors, on voit donc ici que dans les différents chapitres du début de ce livre, il y a en quelque sorte des victoires. À partir de ce choix, il y a une victoire. Le monde a une manière de vivre. Daniel a décidé de vivre pour son Dieu d'une autre manière. Ce choix-là l'amène à être victorieux, puisqu'il est reconnu que ce qu'il a décidé, eh bien, c'est Dieu est vu dans sa manière de vivre. Et en quelque sorte, le monde est jugé dans sa manière de vivre par le choix qu'il a fait. Il n'a pas voulu faire le juge vis-à-vis du monde qui se trouvait là, mais il a décidé pour son Dieu, et effectivement, le monde est jugé dans sa manière de vivre. Et alors, quand on regarde le chapitre 2, il nous parle de la sagesse de ce monde, et il y a le Nebuchadnezzar qui a tous ses sages, et ces sages sont incapables de pouvoir donner une réponse aux préoccupations de Nebuchadnezzar, interprétation de son songe. Alors, il n'y a personne dans ce pays. Si, on va chercher Daniel au verset 13 et ses compagnons, mais pour les tuer parce que Nebuchadnezzar pense qu'il n'y a personne qui peut répondre à son songe. Que fait Daniel? Versets 17 et 18 de ce chapitre 2, avec ses compagnons, ils vont implorer de la part du Dieu des cieux. Ils vont prier. Parce que il y a la foi. Dès le début, et c'est pourquoi on a une décision pour Dieu, parce qu'on a la foi. On connaît ce Dieu. Et pour nous, c'est un Père. On connaît le Seigneur Jésus. Et on peut s'appuyer sur lui. Même si la mort est devant, on peut s'appuyer sur le Dieu vivant. Et le Dieu vivant va révéler des secrets, comme on trouve ici au verset 19. Les secrets sont révélés à Daniel. Ils ont prié, ils se sont mis aux pieds de Dieu. Et on voit dans toute cette histoire de Daniel que Daniel et ses compagnons se mettent aux pieds de Dieu. Et leur foi s'empare de choses qui sont apparemment impossibles, mais Dieu se révèle et Dieu répond. Et donc cette sagesse du monde est jugée par cette victoire dans la prière de Daniel et de ses amis. Tout ça pour dire que l'humiliation de la faim est le résultat d'une vie au pied et dans la présence de Dieu. Alors tout ce chapitre ici 2. Puis après, rapidement, on arrive au chapitre 3. Et là, c'est l'idolâtrie. Nebuchadnezzar qui se fait une idole. Alors ceux qui ne se prosternent pas vont être mis à mort. Et on voit là spécialement les amis de Daniel, mais Daniel associé un peu en quelque sorte. Et quelle est la réponse, on peut dire, de ses amis de Daniel au chapitre 3 et au verset 16? Shadrach, Meshach et Abednego répondirent et dirent au roi: « Nebuchadnezzar, il n'est pas nécessaire que nous te répondions sur ce sujet s'il en est, comme tu dis, notre Dieu. » Vous voyez, notre Dieu. Ce n'est pas le Dieu, simplement le Dieu des chrétiens, etc. Non, notre Dieu, mon Dieu, celui que je connais comme mon Dieu, que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise de feu ardent, et il nous délivrera de ta main au roi, etc. Eh bien, c'est la foi qui s'empare des certitudes de ce Dieu connu. Et quel est le résultat? Eh bien, cette idolâtrie, cette statue mise de côté pour adorer qui? Le vrai Dieu. Et cela est un témoignage rendu. Et on va adorer. Et Nebuchadnezzar va demander non pas qu'on adore sa statue, mais qu'on adore le seul Dieu, le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Donc ce monde qui est jugé dans son idolâtrie pour amener les hommes à se tourner vers le vrai Dieu. Et alors, ensuite au chapitre 4, on voit que ce monde est jugé dans son orgueil. Ce n'est plus Nebuchadnezzar, le grand roi des rois, mais, par exemple, verset 17, « Le Dieu, le Très-Haut, domine sur les royaumes des hommes. » Verset 25, « Le Très-Haut domine sur le royaume des hommes. Les cieux dominent. » Et le résultat, maintenant, verset 37, « Moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je magnifie le roi des cieux, etc. » Donc voilà, toute cette marche, cette vie au pied de Dieu amène les hommes au pied de Dieu, vraiment du vrai Dieu. Et ensuite au chapitre 5, alors c'est l'impiété. On va mépriser les objets de la maison de Dieu. Et Daniel, où est-il ? Eh bien, Daniel n'est pas là. N'est pas là pour faire la fête avec ceux qui méprisent le Dieu des cieux, qui méprisent les objets saints de la maison de Dieu. Il n'est pas là. Et quel est le résultat ? Eh bien, ceux qui méprisent, ceux qui sont des impies, sont jugés. Et Daniel est élevé parce qu'il a été fidèle et il avait pris des risques. Et pourquoi il prenait ces risques ? Parce que il aimait son Dieu, il avait une relation avec son Dieu. Et alors, on voit s'il a décidé, arrêté dans son cœur, si on le voit dans une vie de prière, implorer son Dieu, dans le chapitre 6 et au verset 10, toujours encore en train de prier, et ça c'est important, c'est important cette relation. Quand on prie, c'est qu'on n'est pas sûr de soi. Ça veut dire qu'on a besoin de quelqu'un. C'est la dépendance, c'est la soumission à une autorité, mais c'est aussi une confiance en quelqu'un qui en parle et qu'on lui dit tout son souci, toutes ses inquiétudes, tout ce qui est un sujet de larmes, on lui dit tout. Et au verset 10 de ce chapitre 6, quelle que soit la situation, même si encore c'est un risque de mort pour lui, eh bien il prie encore et on voit que c'est quand il a 85 ans déjà. Toute sa vie, ça a été cela, au pied de son Dieu. Et alors, on a vu donc au chapitre 9 que c'est, il a lu dans les livres. Et comme on nous l'a dit, c'est pas une fois, mais c'était l'habitude de sa vie de lire la parole, rechercher les secrets de l'Éternel qui se révèlent à lui. Et puis il y a cette confession, c'est toute une vie. Donc l'humiliation, c'est pas quelque chose qui se décide, mais c'est le résultat d'une vie au pied de ce Dieu qui est pas le Dieu des chrétiens, mais mon Dieu, celui avec lequel j'ai des relations chaque jour.
J'aimerais souligner la question des 70 années. L'accomplissement des désolations de Jérusalem était de 70 années. Nous savons pourquoi Jérusalem a été châtiée de l'Éternel. Jérusalem était tombée dans une idolâtrie terrible. Et donc l'Éternel a châtié Jérusalem et le peuple de Jérusalem, il l'a déporté à Babylone. 70 années. Donc au bout de 70 années, Jérusalem allait être à nouveau délivrée, parce que Babylone allait être détruite. Il y avait une espérance. Malgré cette terrible idolâtrie du peuple, l'Éternel ne détruit pas le peuple. Détruit pas. Il garde quand même son peuple. Et il le gardera au travers de cette dispersion en Babylone. Et il lui proposera de revenir au bout de 70 ans. Bon, ils ne reviendront pas. Ils reviendront même pas 50 000. Mais il n'empêche que pour Dieu, il continue d'avoir son œil sur son peuple et de continuer ses soins à l'égard de son peuple et de lui proposer donc que Jérusalem, c'est la ville qu'il a choisie pour y faire habiter son nom, il va proposer à ce peuple de revenir. Et Daniel comprend cela. Il comprend qu'il arrive à la fin des 70 années de châtiment sur le peuple. Et que va-t-il faire ? Eh bien, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu pour le rechercher par la prière et la supplication dans le jeûne. Puisqu'il a compris, que ça durait 70 ans. Et Dieu est vrai, ça ne peut pas durer plus puisque Dieu l'a dit. Mais il n'empêche que pour retrouver ce Dieu saint, pour pouvoir à nouveau marcher avec ce Dieu saint, eh bien, il fallait passer par cette humiliation. Il fallait quand même tourner ma face vers le Seigneur Dieu pour le rechercher par la prière et la supplication, dans le jeûne et le sac et la cendre, la marque de l'humiliation en Israël. Et c'est, me semble que c'est à souligner le fait que Dieu garde son œil sur son peuple, même dans une si terrible épreuve, garde son œil sur son peuple. Il veut le ramener, il veut à la fin lui faire du bien. Eh bien, je crois qu'il en est ainsi aussi pour l'Assemblée, n'est-ce pas? Le Seigneur ne rejette pas l'Assemblée. Il a son œil, il garde, il continue de prendre soin d'elle. Bien sûr, il propose une marche plus fidèle, un témoignage plus fidèle. Bien sûr, quelques-uns peut-être rentreront dans ce témoignage, et la grande majorité s'en écarte. Et toutefois, voilà le chemin qui est devant nous. Mais comment commencer dans ce chemin? Eh bien, c'est par l'humiliation, par cette prière et cette supplication, dans le jeûne, le sac et la cendre. Le jeûne, littéralement, c'est la privation de nourriture pour le corps. Ça peut être aussi quelque chose d'autre, y compris cela, n'est-ce pas? Mais aussi, on peut réduire tous les plaisirs que l'on pourrait se donner, qu'on aurait la liberté de se donner. On peut réduire même dans les relations, dans tout cela, n'est-ce pas? Le jeûne, et puis le jeûne, le sac, c'était un vêtement grossier fait de sacs. Nous savons ce que c'est qu'un sac, un sac à pommes de terre. Eh bien, en Israël, on s'en faisait un vêtement pour marquer que on était maintenant, on se châtiait soi-même. Hein. Et on verra plus loin que l'habitude aussi de déchirer ses vêtements, parce que le vêtement, c'est l'apparence. Déchirer ses vêtements, on apparaît tel qu'on est, tout nu. Bon, alors, eh bien oui, voilà. Dans cette situation, il faut apparaître devant Dieu, tout nu, dans nos âmes, tout nu. La parole de Dieu sonde les cœurs et les reins. Il ne s'agit pas de mettre un paravent devant pour essayer d'être autre chose, de paraître autre chose que ce que l'on est. Il s'agit d'être là, tel que l'on est, tel que je suis. Il y a un cantique très important parmi les nôtres. C'est pas tel que je suis. Nous sommes là devant Dieu et la cendre nous parle de cette fragilité de l'homme. Tu es poussière, tu retourneras la poussière. Voilà ce que nous sommes. Fragiles, tout prêts à être ôtés, n'est-ce pas? Alors nous avons besoin de reprendre conscience de notre fragilité, conscience du besoin que nous avons de Dieu, la prière, la supplication, le besoin que nous avons de Dieu. Et pourtant, il savait que les 70 années allaient se terminer. Oui, mais voilà, il fallait à nouveau reprendre place au lieu que l'Éternel avait choisi pour y faire habiter son nom.
Qu'est-ce qui dispose Daniel à cette humiliation? Quelle est la force spirituelle qui le conduit à la réalisation de ce chemin qui est celui de Dieu? Il y a, nous l'avons dit, cette lecture habituelle chez lui. Il a donc vu, de Lévitique 26 a été rappelé partiellement tout à l'heure. Nous avons le pendant en Deutéronome 28. Et Daniel savait que quand on écoute Dieu, quand on vit ce qu'il désire, eh bien nécessairement Dieu accomplit ce qu'il a promis. Quand on met de côté ce que Dieu a dit, eh bien nécessairement le jugement gouvernemental de Dieu vient sur les siens. Et il avait donc lu cette question de 70 ans. On a lu tout à l'heure en Jérémie 25, mais il y a un autre côté en Jérémie 29 qui est intéressant, parce que en Jérémie 25, c'est le jugement qui concerne ceux qui ont agi sur le peuple, qui ont été un instrument pour agir sur le peuple dans les voies gouvernementales de Dieu. Mais au chapitre 29, nous avons un autre côté, et ce qui est intéressant, c'est de voir que Daniel saisit tout ce qui est positif, tout ce que Dieu a promis. Et nous allons voir un autre côté, d'ailleurs, qui attache Daniel à son peuple, mais il le saisit, c'est une vérité pour lui qui a toute sa force, et il cherche le chemin de Dieu pour l'atteindre. Il y a donc, chez Daniel, la conscience que Dieu est pour les siens, il est contre les ennemis des siens, mais on ne joue pas avec Dieu. Ce que nous trouvons dans l'Épître aux Galates, par exemple. On ne joue pas avec Dieu. Si on se moque de Dieu, il y a forcément une rétribution. Si on le cherche sincèrement, avec une connaissance limitée, toujours limitée, eh bien, Dieu se manifestera pour secourir les siens. Alors, il y a toute cette force derrière lui. Et puis, dans la parenthèse des chapitres 7 et 8, par rapport à ce qui nous concerne, là, du livre de Daniel, nous avons une ouverture prophétique dans laquelle l'Éternel fait entrer Daniel dans des choses futures, en relation avec ce qu'il vit présentement, et il y a comme une anticipation de réalités promises qui sont des richesses de Dieu, et voilà encore une force supplémentaire. Et puis, il y a encore une autre force qui est tout à fait intéressante. Nous avons dit quelques mots tout à l'heure du chapitre 3. C'est intéressant de voir que dans ce chapitre 3, on trouve les compagnons de Daniel, on ne trouve pas Daniel. Tant que Daniel a été le premier instrument, il a introduit ses compagnons, il avait besoin d'eux pour une intercession commune, pour en somme une ressource qui soit plus puissante. Et puis, quand le moment vient d'expériences qui concernent les autres, Daniel est en retrait, certainement pas indépendant des autres, mais il est en retrait. Il y a autrement dit, cette dépendance, en même temps qu'un véritable intérêt pour le peuple de Dieu et le sentiment que sa séparation personnelle, c'est justement parce que c'est là le chemin de Dieu. Et lorsqu'arrive cette intelligence que lui donne Dieu, de la fin des 70 ans, la promesse est là, avec sa réalité, Daniel dit, voilà, c'est le moment. Mais ce qui convient, c'est de reconnaître ce qui a été. Nous trouvons cela dans la parole de Dieu. Seulement, reconnaître, trouvons cela au début du livre de Jérémie, par exemple. Hein. Je veux bien, je ne ferai pas peser sur vous un visage courroucé, seulement, reconnais ce que tu as fait. Et la reconnaissance, évidemment, c'est ce qui place dans la poussière, c'est ce qui place sous le sac et la cendre. Et alors, c'est le chemin de Dieu pour la restauration.
Peut-être dire ceci encore, c'est que, bien sûr, Dieu avait prévu 70 ans et pas un an et de plus, bien, mais il fallait en même temps qu'il y ait cet esprit de contrition. Et si on se reporte d'abord à Zacharie chapitre 1er, il y a une prière qui est faite au chapitre 1er, d'abord au verset 12, l'ange de l'Éternel prit la parole et dit: Éternel des armées, jusqu'à quand n'useras-tu pas de miséricorde envers Jérusalem et envers les villes de Juda, contre lesquelles tu as été indigné ces 70 ans? Jusqu'à quand? Mais alors, on sait que, bon, que c'était donc prévu, décrété, c'était la préconnaissance de Dieu, ça durerait 70 ans, mais il fallait qu'il y ait aussi cet esprit de contrition. Eh bien, on peut dire que cet esprit de contrition et d'humiliation qui a été chez Daniel et puis qui a été suivi quand même par le peuple a été là aussi l'œuvre de Dieu, un travail de Dieu, comme ça sera plus tard, comme on le voit alors dans le chapitre 12 de Zacharie, qui fait allusion à un avenir qui est encore à venir. Mais dans Zacharie 12 verset 9, il arrivera en ce jour-là que je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem, et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et regarderont vers moi. C'est bien encore là une œuvre de Dieu, que cette disposition du cœur à la repentance et à la contrition. Et on peut dire que, bien sûr, il y a la piété de Daniel, mais il y a aussi la miséricorde de Dieu qui nous donne un cœur nouveau, un cœur de contrition, et c'est ce que nous pouvons demander sur le plan pratique, nous aussi, qu'il n'y ait pas de rébellion, qu'il y ait une constatation honnête des faits et une humiliation sans laquelle la bénédiction n'est pas possible, bien que elle soit décidée, cette bénédiction. Moi, je connais les pensées que j'ai à votre égard, pensées de paix et de grâce, comme c'est dit dans Jérémie aussi, et non pas de... Voilà. Alors, nous voyons donc tout cela. Je voulais dire juste un mot sur le sac, là, auquel a fait allusion M. Thomas. Le sac, en effet, est un signe de deuil. Un signe de deuil, comme on le voit dans la Genèse, chapitre 37. C'est le cas de Jacob qui met le deuil sur son fils. Genèse 37, verset 34. Et Jacob déchira ses vêtements et mit un sac sur ses reins et mena deuil sur son fils plusieurs jours. C'est une attitude convenable devant un grand malheur. Et y avait-il un plus grand malheur que celui d'être rejeté par Dieu en tant que peuple de Dieu? Voilà. Tout cela est intéressant, non pas seulement pour nous distraire par des faits historiques qui ont un intérêt et puis qui est saisissant peut-être, mais évidemment nous sommes là pour voir maintenant au point de vue pratique, et en particulier le premier problème qui va se poser maintenant peut-être pour nous, c'est ce nous. Pourquoi Daniel parle de nous, nous avons péché, alors que nous avons dit à plusieurs reprises que précisément il n'avait absolument pas trempé dans ce péché et ça a été mis absolument à l'écart. Alors là, tout à première vue, il y a une anomalie, et je crois que c'est là, c'est une difficulté qu'il faut que nous résolvions, parce qu'elle a une portée pratique maintenant pour nous.
Il n'y a pas seulement le « nous », il y a aussi « je fis ma confession ». Premièrement, il y a ma confession. Et ensuite, il y a « nous », un autre.
Il y a le côté de l'identification. Daniel, ici, s'identifie bien avec le peuple. C'est une pensée que nous voyons présentée à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. Et puis, il y a autre chose qui est tout à fait essentielle. Daniel voit, à ce moment-là, ce que d'autres ne voient pas. Il a conscience que Dieu honore la foi. Il remplit envers Dieu ce qu'il a à remplir et il compte sur Dieu pour faire le reste. Trouvons le même côté de pensée, par exemple, à la fin d'Ézéchiel 22, quand Dieu nous dit « J'ai cherché parmi eux un homme qui ferma l'enceinte, qui se tint à la brèche devant moi pour le pays, afin que je ne le détruisisse pas. » Autrement dit, si nous avons conscience, à titre personnel, que Dieu, dans la supplication et dans la reconnaissance, nous invite à quelque chose, eh bien, faisons confiance à Dieu pour opérer ensuite d'une manière très large.
Il y a un élément important, peut-être, c'est que pour Daniel, il ne pouvait pas, en toute honnêteté, parler de son péché qu'il n'avait pas commis. C'est pas possible. Il s'est dit dans Galates, chacun portera son propre fardeau. Dieu savait très bien que Daniel était un bien-aimé, d'ailleurs, un bien-aimé. Il s'est dit dans notre chapitre, au verset 33, tu es un bien-aimé. Alors, eh bien, l'Éternel accepte cette confession. C'est une confession par sympathie, souffrance, on souffre tous ensemble. Et je crois que là, c'est un point qu'il faut bien clarifier pour nous tous, et pour les jeunes en particulier. Il y a une sympathie, une souffrance qui est participation à la souffrance générale en tant que membre d'un même corps. Je crois que c'est là l'important. Et si nous voulons un exemple, on ne peut pas trouver un exemple plus parfait que celui du Seigneur. Et là, je pose un peu la question. Le Seigneur, pourquoi il s'est fait baptiser? Il était pur, par excellence. Le péché n'habitait pas en lui, pas pratiqué, pas commis. Et il accepte le baptême. Il nous est convenable d'accomplir toute justice. C'était juste devant Dieu qu'il prenne cette part. Il y a aussi un verset que je voudrais citer, qu'on n'ose pas citer souvent. C'est dans le psaume 69. Et il y a un verset que... On dit, bon, le psaume 69 s'applique au Seigneur, bien évidemment, et c'est un très beau psaume. Mais parmi ces versets du psaume 69, il y a le verset 5. « Ô Dieu, tu connais ma folie, et mes fautes ne sont pas cachées. Peut-on dire que c'est quand même, même là, le Seigneur qui est vu prononçant ces paroles, comme il dit ailleurs, mes iniquités m'ont atteint, je ne puis les regarder, elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête, je pose la question.
Je ne sais pas, tout à l'heure, bien sûr, nous avons mis en évidence qu'il n'a pas plu au Saint-Esprit de nous rapporter aucune faute touchant la vie de Daniel. C'est un homme, en effet, si on ose dire, remarquable dans sa fidélité au Seigneur, dans ses manifestations de la foi. Mais je crois qu'il nous est dit ailleurs que le juste pêche sept fois le jour, n'est-ce pas ? Nous chantons enfants d'une race maudite. Il n'y a personne certainement sur cette terre, à part cet homme parfait qui a été le Seigneur, qui puisse, en quelque sorte, se sentir dispensé de confesser ses propres péchés, ses propres fautes. Je pense à la lamentation de Jérémie, n'est-ce pas, où il est dit au chapitre 3, au verset 39, « Pourquoi un homme vivant se plaindrait-il, un homme, à cause de la peine de ses péchés ?» Nous avons ajouté nos péchés, c'est clair. Et ensuite, verset 40, il dit « Recherchons nos voies et scrutons-les et retournons jusqu'à l'Éternel, élevons nos cœurs avec nos mains vers le Dieu des cieux. Nous avons désobéi, nous avons été rebelles, tu n'as pas pardonné. » Bien, je crois vraiment que nous pouvons dire que Daniel prend cette place-là. Bien sûr, il s'identifie avec le peuple, mais il commence par faire, comme le disait notre frère Thomas, sa confession. Et je crois que le Seigneur désire que nous commencions par là. Absolument. Je pense que chacun de nous, d'ailleurs, n'aura pas à chercher peut-être autant que Daniel pour voir ce qui, dans sa vie, n'a pas été à la gloire du Seigneur. Et c'est de toute importance que nous soyons dans cet état d'esprit-là. Esdras aussi, c'est frappant. On y viendra, mais il était aussi certainement un homme assez remarquable, mais il a pris aussi cette place. Alors, je voudrais rappeler un verset que certainement chacun de nous a eu sur le cœur, c'est le verset d'Ésaïe 66, où Dieu dit, au verset 2, « C'est à celui-ci que je regarderai, à l'affligé, à celui qui a l'esprit contrit et qui tremble à ma parole. » Il me semble que c'est un verset capital. Et c'était dans ces dispositions de cœur-là que Daniel se tenait devant Dieu. Et c'est ainsi qu'il a eu cette merveilleuse réponse, aussitôt. Une autre chose très importante, à laquelle certainement nous avons tous pensé, c'est que le Seigneur nous garde de manifestations d'humiliation qui ne soient pas vraies. On vient de voir comment elles étaient parfaitement vraies chez Daniel, c'est clair. Mais nous savons bien que nous avons souvent des apparences qui ne sont pas vraies. Et Dieu le voit, ça. Nous pouvons tromper nos frères, nous nous trompons peut-être nous-mêmes, mais Dieu le voit. Et ça, c'est très très important de sentir que nous sommes dans sa lumière et que le Seigneur voit ce qui se passe dans nos cœurs. Et je pense, bien sûr, à un verset, par exemple, de je crois que c'est dans Amos, où Dieu dit que il ne faut pas. En tout cas, ailleurs, il est dit, ne déchirez pas vos vêtements, déchirez vos cœurs. Et dans ce livre d'Amos, il y a un verset, je ne le trouve pas pour l'instant, où il est dit, ils n'ont pas crié vers moi quand ils ont hurlé sur leur lit. C'est quelque chose d'impressionnant. Ils ont mené grand bruit, c'est clair. Mais le Seigneur qui voit dans le secret du cœur, bien, dit non. Ils n'ont pas vraiment crié vers moi. Oui, ils ont hurlé sur leur lit. Mais ils n'ont pas crié vers moi. Vous voyez, c'est quand même très sérieux, cela. Le Seigneur désire il veut la vérité, on l'a rappelé dans une prière tout à l'heure, tu veux la vérité quant à l'homme intérieur. Et ça, je crois que c'est une chose très, très sérieuse. On peut se tromper très longtemps. Ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement triste. Chacun de nous a sans doute pensé au passage de Zacharie. N'est-ce pas ? On a déjà cité le prophète Zacharie, mais au chapitre 7, chacun de nous connaît bien ce passage de Zacharie 7, page 651. Quand on voit ces hommes qui sont venus, n'est-ce pas, de Bethel, ils sont venus vers vers le prophète, et puis ils ont posé une question qui paraissait bien sympathique, n'est-ce pas, au verset 3. « Au sacrificateur qui était dans la maison de l'Éternel, des armées, et au prophète disant, pleurerai-je la cinquième année, au cinquième mois, en me séparant comme je l'ai fait, voici tant d'années. » Et en effet, il y avait bien longtemps qu'ils agissaient comme ça. Il y avait un jeûne, et puis on pleurait, etc. On se séparait extérieurement. Séparation extérieure, attention. Et le Seigneur leur fait répondre, n'est-ce pas? Vous connaissez tous ce passage, au verset 5. Parle à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, disant, quand vous avez jeûné et que vous vous êtes lamenté au cinquième et au septième mois, et cela pendant 70 ans, est-ce réellement pour moi que vous avez jeûné? Voilà une question qui était bien de nature à sonder le cœur et la conscience et le cœur. Ces manifestations extérieures d'humiliation, elles n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu si elles ne traduisent pas un état intérieur profondément humilié. Le Seigneur le voit. Et c'est très beau, c'est très précieux de savoir qu'il le sait. Lui, on ne le trompe pas. Vous voyez, on a un exemple dans l'Écriture de deux hommes. Par exemple, je pense à ces deux hommes qui ont vécu à peu près à la même époque, c'est David et Saül. Et tous les deux, ils ont dit, j'ai péché. Mais pour David, tu as dit, aussi j'ai fait passer ton péché. Parce que le cœur de David était réellement brisé devant Dieu. Alors Dieu a répondu. Tandis que Saül, on dirait qu'un instant après, ses paroles le trahissent parce qu'il dit, honore-moi devant mon peuple. Ce n'était pas une vraie repentance. Et que le Seigneur nous accorde de bien sentir cela, c'est très précieux que de nous identifier au peuple de Dieu, mais faut-il le faire avec ce cœur vraiment brisé et humilié, l'esprit contrit. Et ça, le Seigneur le verra tout de suite.
C'est pourquoi il est important que cette expression « je fis ma confession » d'abord. D'abord personnel, privé, pas en public. C'est devant Dieu. Parce que quand on est en public, eh bien, on sait très bien parler, surtout dans nos milieux, nous savons très bien parler, et très bien dire des choses qui ne correspondent pas toujours à l'état de notre cœur. Nous devons bien l'avouer, nous devons le confesser, ça aussi. Au verset 6, il y a aussi quelque chose qu'il faut relever. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui parlaient en ton nom. N'avons pas écouté, et ça reviendra à plusieurs reprises au verset 10, nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel. Et même au verset 15, nous n'avons pas écouté sa voix. Voilà, écoutez. Écoutez ce que Dieu veut nous dire, et s'il veut nous reprendre, ne pas ôter notre oreille. Écoutez, nous n'avons pas écouté ces serviteurs, les serviteurs, les prophètes qui étaient chargés de reprendre le peuple, de redresser les pensées du peuple, de le ramener le peuple, de ramener le peuple à son Dieu alors que le peuple était tourné vers ses idoles, eh bien nous n'avons pas écouté. Ça c'est grave, ne pas écouter ce que Dieu dit, eh bien c'est perdre tout, c'est perdre la communion avec lui d'abord et puis perdre aussi tous les privilèges dont il veut nous bénir, n'est-ce pas ? Nous n'avons pas écouté. Si nous n'écoutons pas ce que Dieu nous dit, nous inventons nous-mêmes notre chemin. Alors, bon, c'est notre pensée à nous, c'est pas celle du Seigneur. C'est notre chemin à nous, non pas celui du Seigneur. Dieu veut nous dire, voilà, c'est ici le chemin, marchez-y. Oui, non, mais nous on pense que le chemin à côté est bien meilleur. Et nous faisons notre propre volonté, et non plus celle du Seigneur.
Il y a autre chose dans ce même verset, c'est que Dieu s'est adressé à toutes les classes du peuple. Autrement dit, quand Dieu nous dit quelque chose dans sa parole, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Il y avait ici la plus haute autorité, les rois, ensuite il y avait les princes, les pères, et puis tout le peuple du pays. Autrement dit, la disposition à écouter doit caractériser tout le monde. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas écouté, pouvons pas dire, oui, on l'entend quelquefois, oui, ça concerne les autres, ils sont plus intelligents sur le plan spirituel, ils ont une capacité que je n'ai pas. Mais nous lisons ici clairement que Dieu s'est adressé à toutes les classes du peuple. Il y a donc véritablement une parole pour chacun, et ça n'est pas seulement la responsabilité des autres d'agir ou de se manifester pour Dieu en telle ou telle circonstance. Il y a une part pour chacun. Et c'est bien ce qui amène Daniel à une confession personnelle. Dieu s'adresse à tous. Daniel a entendu quelque chose pour lui, de sorte qu'il sent une responsabilité personnelle. Il y a aussi ce qui vient d'être rappelé tout à l'heure et qu'on trouve dans le psaume 51, le sentiment de ce qu'il est lui, comme descendant d'Adam finalement. Il y a donc toute une reconnaissance. Il y a la réalité de sa nature pécheresse, et puis il y a sa responsabilité personnelle parce que Dieu s'est adressé à lui comme aux autres. Est-ce que nous sommes disposés à entendre cela? Est-ce que nous pensons toujours qu'il y a des affaires qui concernent les autres? Nous ne voulons pas dire, dans le fait de prendre au sein du peuple de Dieu ou publiquement une activité. Il y en a aussi qui s'élèvent au-dessus de leur place. C'est un autre côté, mais qui est faux. Mais ce que nous avons ici, c'est le sentiment que nous sommes concernés. Alors à nous de savoir à quel niveau nous sommes concernés, ça peut être simplement pour l'intercession, pour la confession personnelle, pour des supplications cachées, ça peut être pour quelque chose de visible, mais en tout cas, chacun est concerné.
Je crois que le sujet que nous considérons est l'humiliation. Et cette humiliation, elle s'adresse à des croyants, et non pas des incrédules. C'est important de le souligner parce qu'on voudrait peut-être faire passer par un chemin des âmes qui ne peuvent pas y passer. Et dans la compréhension des choses, dans leur être intérieur, est fermée parce qu'elles n'ont pas reconnu celui qui est venu dans ce monde comme un homme et qui a été élevé sur une croix, elles ne le reconnaissent pas comme Seigneur. Dans ce chapitre, et dans les versets que nous avons lus, à 10 reprises, il est question du Seigneur. La parole nous place devant celui qui a toute autorité sur nos âmes. Si nous ne la reconnaissons pas comme telle, comment pourrons-nous nous humilier de ce que nous ne nous sommes pas soumis à sa volonté, de ce que nous n'avons pas écouté sa voix, de ce que nous ne nous sommes pas mis au rang de ses serviteurs, de ses esclaves, pour marcher, rechercher ce qui lui était agréable pour le faire. Que les pensées que Daniel a eues depuis son jeune âge, depuis que la parole parle de lui, jusqu'à cet âge avancé, soient aussi ceux qui occupent nos propres pensées. Reconnaître d'abord l'autorité du Seigneur. Et en fonction de cette autorité, qu'est-ce que nous en avons fait chacun pour ce qui nous concerne? Alors, nous verrons toute la distance qui nous sépare entre ce que Dieu a désiré pour chacun de ses bien-aimés et ce que nous faisons, où nous en sommes nous-mêmes. Qu'est-ce que nous avons fait de ce que Dieu nous a donné? Voilà le chemin de l'humiliation réelle, de celle qui nous amène à cet état de contrition profonde où nous sentons que nous avons besoin de toute la grâce de Dieu pour ne pas être anéantis, pour ne pas être éliminés de la scène de ce monde.
Un point peut-être important, c'est peut-être un peu prématuré, mais il est quand même frappant qu'au verset 7, comme au verset 12, comme au verset 14, cette pensée revient, c'est que, elle est d'ailleurs très explicite au verset 14, quand il est dit « L'Éternel a veillé sur le mal et l'a fait venir sur nous. Voilà une chose que nous avons peut-être du mal à admettre, quelquefois. Et pourtant, je crois qu'il est important que nous réalisions. Dans ce sens que nous sommes portés naturellement à penser que c'est tel des frères ou d'autres qui sont responsables de telle division, de telle tristesse, etc. Et bien sûr que dans un sens, nous pouvons hélas avoir notre part de responsabilité et combien dans ces choses, mais tout de même, on voit bien et on doit certainement sentir et réaliser que tout est permis, si j'ose dire, d'en haut. Que le Seigneur se sert de bien des circonstances pour parler au cœur de ses rachetés, de ses bien-aimés, justement parce qu'ils sont à lui et qu'il ne veut pas qu'ils soient jugés comme le monde. C'est un verset percée qui m'a très souvent encouragé, que celui que nous avons dans 1 Corinthiens au chapitre 10, je crois qu'il est important peut-être de le rappeler, 1 Corinthiens 11, pardon, quand il est question de ceux qui prennent la scène du Seigneur indignement, et il est dit que, bon, il est dit verset 28, que chacun s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boit la coupe, car celui qui mange et qui boit, mange et boit, jugement contre lui-même, ne distinguant pas le corps. Et c'est pour cela que plusieurs sont faibles et malades parmi vous, et qu'un assez grand nombre dorment. J'en viens à ce que j'avais devant moi, mais si nous jugions nous-mêmes, verset 31, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, voilà, nous n'avons pas agi de la manière que le Seigneur nous demande positivement ici, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Afin, et ça je crois que c'est très très important, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Tout à l'heure, un frère a rappelé cette pensée que son jugement commence par sa propre maison, comme on trouve dans l'épître de Pierre, n'est-ce pas? Alors, il est important de voir la main du Seigneur, parce que et de s'en référer à lui, de s'en ramener à lui, d'en revenir à lui. Parce que nous, c'est clair, tout ce que nous savons faire, c'est détruire, c'est démolir, c'est disperser, hélas. Et combien de fois nous avons agi de cette manière. Mais le Seigneur, il est à la fois celui qui peut, s'il le juge bon, oui, bien sûr, détruire, comme il le dit dans, il le disait à Baruch, par exemple, n'est-ce pas, dans Jérémie 45. Mais il est aussi celui qui peut planter et qui peut bâtir et qui peut reconstruire. Alors avoir affaire à lui, comme ici Daniel s'y applique, c'est certainement pour nous aussi une démarche, je dirais, de cœur tout à fait convenable. Et d'ailleurs, Dieu a tout de suite répondu à son serviteur. Quand il a vu que vraiment Daniel réalisait que ce n'était que sur le plan de la grâce que Dieu pouvait opérer. Ça, c'est, je crois que c'est le point très important. Il est arrivé un moment où il n'y a que les... À toi sont les pardons, comme il dit, n'est-ce pas? C'est la grâce de Dieu qui peut, et les compassions. Ce n'est que sur ce plan-là que nous pouvons être relevés, que nous pouvons être restaurés. Mais faut-il que nous ramenions les choses là où elles sont, c'est-à-dire entre les mains du Seigneur?
L'Éternel a veillé sur le mal, c'est en effet une expression qui peut nous paraître bizarre. Mais dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, nous avons, au verset 11, « Aucune discipline pour le présent ne semble être un sujet de joie, mais de tristesse. » Voilà, être déporté à Babylone, c'est quelque chose. « Mais plus tard, il rend le fruit paisible de la justice à ceux qui sont exercés par elle. » Et au verset 10, la parole avait dit, celui-ci, donc Dieu, nous discipline pour notre profit, afin que nous participions à sa sainteté. L'Éternel aimait Israël, aimait son peuple. Et parce qu'il aimait son peuple, il ne pouvait pas le laisser aller dans toutes les idolâtries qui l'entouraient. Il fallait le ramener. Pour le ramener, il lui fallait un châtiment très sévère, bien sûr, mais un châtiment pour que le peuple revienne à l'Éternel. C'était discipliné pour le profit du peuple. Alors, l'Éternel a veillé sur le mal.
On peut peut-être mettre en évidence, en relief, justement, suite à ce que vient de me dire notre frère, là, que la justice de Dieu est sauvegardée au chapitre 9, verset 7, là, précisément. En même temps qu'il y a la confusion de face, il y a la déclaration de la justice. On a affaire à la compassion, à la miséricorde, certainement, mais il y a la justice. Alors, la justice, à toi, Seigneur, la justice, c'est lui qui a raison, c'est le Seigneur qui a raison. On le voit alors au verset 14 qui a été cité, notre Dieu est juste dans toutes les œuvres qu'il a faites. Au verset 18, car ce n'est pas à cause de nos justices. Il est question donc de la justice de Dieu, simplement. Bon, alors, ça fait penser d'ailleurs à ce qui est dit dans Romains, chapitre 3, n'est-ce pas ? Il est dit, Dieu est vrai, tout homme menteur, selon ce qu'il est écrit, en sorte que tu sois justifié dans tes paroles et que tu aies gain de cause quand tu es jugé. On reconnaît que le jugement dans lequel on est passé, la discipline qu'on a, est une vraie, une juste. D'ailleurs, c'est ce que disait le brigand sur la croix. Nous, nous y sommes justement. Il n'y a pas de contestation. On ne se défend pas, on ne cherche pas des atténuations à la culpabilité. On ne cherche pas de justification quelconque. La justification ne revient qu'à Dieu. C'est Dieu seul qui est juste. Et nous n'avons rien à dire pour nous justifier. Mais si on invoque la justice de Dieu, on invoque aussi la miséricorde, parce que, vous voyez, quand il est dit au verset 7, à la fin, aux hommes de Juda et aux hommes de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près, à ceux qui sont loin, dans le pays où tu nous as chassés. Pourquoi chassés ? À cause de leur infidélité par laquelle ils ont été infidèles. Voilà pourquoi nous sommes chassés. C'est une confession là aussi. Nous y sommes justement. Et il se réfère à Salomon, lequel Salomon se réfère à Moïse. Si vous voulez qu'on peut regarder rapidement dans 2 Chroniques 6, 36. Dans 2 Chroniques 6, 36, lorsque Salomon fait sa prière lors de la dédicace du temple, eh bien, il envisage ce cas. 6, 36, il dit, « S'ils ont péché contre toi, et il n'y a point d'homme qui ne pêche, et que tu te sois irrité contre eux, et que tu les aies livrés à l'ennemi, qu'ils aient été amenés captifs en un pays éloigné. » Voilà. Les choses sont prévues. C'est bien ce qui est arrivé. Mais alors, si dans ce pays où ils sont captifs, ils rentrent en eux-mêmes et reviennent à toi et te supplient dans le pays de leur captivité, disant, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons agi méchamment, et s'ils se reviennent à toi de tout leur cœur et toute leur âme dans le pays de leur captivité où on les aura amenés captifs et te prient en se tournant vers leur pays que tu as donné à leur père et vers leur vie, la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie pour ton nom, alors écoute des cieux, du lieu de ton habitation, leurs prières, leurs supplications, fais leur droit et pardonne à ton peuple ce en quoi ils ont péché contre toi. Il y a eu une déclaration sans réticence de la justice de Dieu. C'est justement que nous sommes tenus ainsi captifs. Nous sommes justement captifs, comme c'est dit aussi dans Ésaïe. Mais malgré tout, nous retournons et alors il est prévu de revenir. Et déjà, Moïse avait eu ce même état d'esprit, si vous voulez, rapidement, Deutéronome 30 et verset 1er, où nous avons la même possibilité envisagée, car Dieu sait tout à l'avance. Bref. Voilà, c'est verset premier. Et lorsque toutes les choses que tu as mises devant toi seront venues sur toi, la bénédiction et la malédiction, et lorsque tu les auras rappelées dans ton cœur parmi toutes les nations où l'Éternel, ton Dieu, t'aura chassé, et que tu seras retourné alors à l'Éternel, ton Dieu, et que tu auras écouté sa voix et selon tout ce que je te commande aujourd'hui, et que tes fils, toi et tes fils, de tout ton cœur et de toute ton âme, il arrivera que l'Éternel, ton Dieu, rétablira les captifs et aura pitié de toi et te rassemblera de nouveau. Voyez, Salomon et Moïse et même Josué prévoyaient l'infidélité du peuple, prévoyaient le grand besoin que le peuple aurait de la miséricorde. Et voilà, historiquement, c'était déjà réalisé du temps de Daniel. Et nous savons que ce n'est pas fini et qu'il y aura encore ce grand retour plus tard d'Israël futur lorsque ils regarderont vers ceux qu'ils auront percés, comme nous l'avons lu déjà dans Zacharie.
Si nous avons cette nature de Dieu qui est juste, je voudrais également lire un verset dans le livre du prophète Jérémie, parce que si dans notre chapitre nous avons que l'Éternel a veillé sur le mal, nous pourrions lire dans Jérémie 31, verset 28. Il arrivera que comme j'ai veillé sur eux pour arracher, pour démolir et pour renverser et pour détruire et pour faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. Cela pour nous montrer donc ce caractère de Dieu, donc qui est aussi le Dieu de grâce. Et c'est Dieu qui avait cela en vue, pour veiller, pour rebâtir et pour planter. Et cela pour nous montrer donc la différence, si je peux dire, entre l'époque de Daniel et la nôtre, l'époque de Daniel sous la loi. Le Dieu qui ne pouvait pas voir le mal, et puis pour nous, le Dieu de grâce. Dieu qui a un chemin, qui a quelque chose en vue. Dieu qui nous a donné un modèle, le Seigneur Jésus lui-même. Et j'aimerais que nous lisions dès maintenant dans l'Épître aux Philippiens, pour que nous ayons cette pensée toujours devant nous, qui n'est pas la pensée de l'humiliation, mais peut-être un autre chemin, le chemin de l'humilité. Épître aux Philippiens, chapitre 2, qu'il y ait donc en vous cette pensée, verset 5, qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus, lequel étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave. Étant fait à la ressemblance des hommes, étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a haut élevé, lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou des êtres célestes et terrestres et infernaux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Que rien ne se fasse, verset 3, par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que dans l'humilité l'un estime l'autre supérieur à lui-même, chacun ne regardant pas à ce qui est à lui, mais chacun aussi à ce qui est aux autres.
Le chemin de l'humilité, c'est un chemin qui nous convient toujours, si on peut dire. Et certainement, si nous y restions, si l'orgueil ne se manifestait pas de bien des manières dans nos cœurs, eh bien, nous serions gardés de bien des chutes. Mais il y a bien des moments, et même si nous ne sommes plus sous la loi, ce qui nous convient, c'est vraiment l'humiliation. Et je pense à un cas précis que nous avons dans le Nouveau Testament. C'est tout simplement ce qui s'est passé à Corinthe. En Corinthiens 5, nous connaissons l'état de grande misère qui s'était manifesté là au sein de l'Assemblée. Et ce qui est beaucoup plus précieux, c'est de voir ce que l'Esprit de Dieu, nous pouvons le dire, a produit dans le cœur de ces Corinthiens à la gloire de Dieu, parce que tout ça est à la gloire de Dieu, quand vraiment une humiliation selon Dieu se produit. C'est quelque chose que le Seigneur apprécie et que nous devons, dont nous comprenons tout le prix à ses yeux, parce qu'il désire que la communion avec lui soit vraie, réelle, profonde, et qu'elle soit retrouvée, donc si elle a été rompue. Alors chacun de nous connaît bien 2 Corinthiens 7, je ne fais que lire quelques versets. On se souvient que l'apôtre Paul, et c'est bien le propre d'un vrai serviteur attentif à donner la vérité, mais aussi craignant de faire une peine inutile et est en tout cas très étreint dans son cœur jusqu'à ce que les fruits qui soient produits dans le cœur de ses chers Corinthiens qu'il aimait. Et puis alors il apprend, il dit au verset 8 de Corinthiens 7, si aussi je vous ai attristé par ma lettre, voilà, je n'en ai pas de regret, si même j'en ai eu du regret, car je vois que cette lettre vous a attristé, lors même que cela n'a été que pour un temps. Mais je me réjouis, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que vous avez été attristé à repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, afin qu'en rien vous ne receviez de préjudice de notre part. Car la tristesse qui est selon Dieu, et c'est là qui est important, opère une repentance à salut dont on n'a pas de regret, mais la tristesse du monde opère la mort. Car voici ce fait même que vous avez été attristé selon Dieu, quel empressement il a produit en vous. Mais quelles excuses, mais quelle indignation, mais quelle crainte, mais quel ardent désir, mais quel zèle, mais quelle vengeance. À tous égards, vous avez montré que vous étiez pur dans l'affaire. Et comme le cœur, évidemment, de l'homme est toujours le même, évidemment, ils étaient en danger d'aller trop loin dans ce sens, et il fallait que l'apôtre Paul les exhorte dans le cas précis à maintenant manifester leur... comment il dit exactement, je voudrais dire l'expression exacte, ratifier leur amour envers celui qui avait péché, mais qui s'était repenti. Et alors, il n'y avait plus rien qui faisait obstacle à cette communion retrouvée. Mais vous voyez, c'est bien que nous devons sentir que humilité, oui, toujours, que Dieu le veuille, mais aussi, hélas, quand les circonstances le montrent, le rendre nécessaire, humiliation. Une humiliation dont nous n'aurons pas de regret si elle est selon Dieu et qu'elle produit ses fruits que le Seigneur désire pour que notre communion avec lui soit retrouvée. Et c'est vrai, bien sûr, sur le plan individuel, mais c'est bien vrai également sur le plan de l'Assemblée.
Ce qui caractérise l'humiliation, c'est la reconnaissance et la disposition à revenir à une situation normale. Il ne s'agit pas simplement de reconnaître certaines choses d'une manière superficielle, comme on l'a vu certaines fois, et puis de s'en sentir débarrassé comme ceci. Dieu va devoir intervenir parce qu'il faut un travail profond. L'humiliation conduit donc à la reconnaissance de ce qui n'était pas selon la pensée de Dieu, de ce qui a porté atteinte à la gloire de Dieu. Et en même temps, nous insistons le besoin très fort de régler les choses et de revenir à une situation normale. Alors il y a un comportement habituel de Dieu vis-à-vis des nations, vis-à-vis aussi de sa nation lorsqu'il est question du peuple et vis-à-vis des rachetés aujourd'hui. Nous le trouvons dans le chapitre 18 du livre de Jérémie. Et au verset 7, il faut lire peut-être les versets 7 à 11, c'est court. Au moment où je parle, au sujet d'une nation et au sujet d'un royaume pour arracher, pour démolir et pour détruire, si cette nation au sujet de laquelle j'ai parlé se détourne du mal qu'elle a fait, je me repentirai du mal que je pensais lui faire. Et au moment où je parle d'une nation et d'un royaume pour bâtir et pour planter, si elle fait ce qui est mauvais à mes yeux pour ne pas écouter ma voix, je me repentirai du bien que j'avais dit vouloir lui faire. Et maintenant, parle aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, disant, ainsi dit l'Éternel, voici, moi je prépare contre vous du mal et je forme un dessein contre vous. Revenez chacun de sa mauvaise voie et amendez vos voies et vos actions. Et nous trouvons l'obstination du peuple, mais il y a cette indication, ce comportement général de Dieu. Et c'est quelque chose que Daniel sait et que Dieu veut que nous éprouvions nous-mêmes aujourd'hui, maintenant. Ce cœur de Dieu qui, nous l'avons répété plusieurs fois, désire effectivement faire du bien, mais il ne peut pas le faire si nous ne sommes pas disposés à recevoir ce bien. Il faut que nous en ayons envie, mais il faut aussi que reconnaissant les choses et mettant de côté ce qui n'est pas conforme à sa pensée, nous venions nous placer sur un terrain sur lequel Dieu trouve le libre chemin pour bénir.
Nous voyons ce qui se passe chez Esdras, dans Esdras. Tant que le problème, le trouble n'a pas été réglé, eh bien, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de communion, il n'y a pas de... C'est ce qu'on voit dans Esdras. Là, il a fallu régler les questions. Et dans les Corinthiens, ce qui reprochait aux Corinthiens, à la première épître, c'est qu'ils n'ont pas mené deuil. Il y avait un deuil à mener. Un deuil et un exercice qui ne pouvait pas cesser tant que la question n'avait pas été réglée, élimination du levain, et puis ensuite, bien sûr, encore des exercices pour qu'il y ait pleine restauration. Et c'est notre part actuellement. Nous ne pouvons pas, tant que les choses ne sont pas heureuses parmi nous, tant que le témoignage n'est pas fidèle, nous ne pouvons pas être tranquilles. Les exercices et les prières et le deuil ne cesseront pas, parce que nous sentons une anomalie. Quand il y a une anomalie, que ce soit à l'assemblée locale ou bien un mal plus répandu, voilà pourquoi ces chapitres nous interpellent vivement. Nous ne pouvons pas être à l'aise, nous ne pouvons pas être heureux. Et l'argument, que peut-être qu'on ne peut pas tout dire dans ce chapitre, mais l'argument, c'est précisément qu'il s'agit du peuple de Dieu. Et pas de n'importe quel peuple. Et c'est ce qui est mis en relief tout à fait par comme argumentation dans l'intercession de Daniel. Ce qui est dit dès le verset 15, c'est ton peuple. Verset 16, ta ville, ta sainte montagne. Verset 18, ton sanctuaire. Verset 19, ta ville, ton peuple. Et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs un peu hier à Toulouse. C'est l'argument aussi de Moïse. Quand Moïse dit « Considère que ce peuple est ton peuple », comme on le voit dans l'Exode 33, considère que cette nation est ton peuple. Exode 33, verset 14.
Quand Élie disait à Dieu j'étais très jaloux. J'ai été très jaloux pour toi, n'est-ce pas? Parce que pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les fils, 1 roi 19, hein, car les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée, et je suis resté moi seul, et ils cherchent ma vie pour l'ôter. On peut dire que dans un sens, tout ce que disait Élie, là, était parfaitement.
Mais il n'était pas du tout dans la pensée de Dieu. Il n'était pas du tout dans la pensée de Dieu. Et c'est bien la différence avec justement un Daniel ou un Moïse, comme on dit. C'est tout à fait remarquable. Dans l'épître aux Romains, qu'est-ce qui est retenu, on pourrait dire, contre Élie, si précieux soit ce serviteur par ailleurs, c'est qu'il a fait requête contre le peuple de Dieu. Et ça, c'est... Nous ne sommes jamais à notre place si nous agissons de cette manière. Absolument jamais. Que le Seigneur nous garde dans l'esprit, justement, d'un Daniel ou d'un Moïse qui se sont identifiés avec ce peuple et qui ont eu une intercession intelligente. Et ils ont dit à Dieu, voilà, mais écoute, maintenant, verset 17, ô notre Dieu, écoute la prière de ton serviteur, n'est-ce pas? Fais luire ta face sur ton sanctuaire désolé. Et plus haut, il dit même, Seigneur, selon toutes tes justices, verset 16, que ta colère et ta fureur se détournent, je te prie, de ta ville, de Jérusalem, ta sainte montagne. C'est extrêmement frappant, chacun de nous pourra le rechercher dans ces versets, de voir, c'est tout le temps ton, ta. Voilà un prophète, un enfant de Dieu, on pourrait dire un serviteur de Dieu, qui réalise que c'est en présentant les choses de cette manière qu'il trouvera le cœur de Dieu. Dieu ne peut pas ne pas répondre, c'est impossible. Et il en est de même pour l'Assemblée. Pourquoi est-ce que l'Assemblée est chère à son cœur? Parce qu'elle est, liée pour le temps et l'éternité, on pourrait dire, à son Fils bien-aimé. Il nous avait été revêtus de sa propre magnificence aux yeux de Dieu.
nous sommes été rendus agréables dans le bien-aimé. Est-ce que nous réalisons ce que cela implique? Alors évidemment, le Seigneur est certainement obligé de nous reprendre comme nous le méritons, mais quand même, son amour et sa grâce et ses yeux sont toujours là, comme il était dit pour Jérusalem.
Il y a un autre niveau de choses qui est présenté dans ce chapitre-là, c'est la conscience que Dieu veut des témoins sur la terre, et à ce moment-là, vu dans le peuple, il veut manifester quelque chose de ce qu'il concerne. Il y a en Deutéronome 4, cette pensée, nous la citons simplement, le contexte est intéressant. Il est dit, s'il y a conformité du comportement du peuple à la pensée de Dieu, que les peuples qui entendront ces choses diront, quel peuple sage et intelligent que cette grande nation. Un témoignage est rendu par le peuple de Dieu si son comportement est conforme à la pensée de Dieu. Verset 6. Et ici, ce que nous trouvons chez Daniel, c'est que le peuple, la ville, sont appelés du nom de Dieu. Et alors, il souffre véritablement parce que Dieu n'est pas montré comme il devrait être montré. Alors, il supplie Dieu d'intervenir pour qu'en somme, il soit rendu de lui, par le peuple, un témoignage de ce qu'il est véritablement, qu'on voit bien que ce peuple est en relation officielle avec Dieu, qu'il se réclame de son nom et qu'il dit quelque chose de ce nom-là, de sa grandeur, de sa beauté, de son invitation à tous. Et il faudrait aussi que nous connaissions cela. C'est une dimension qui est souvent oubliée. On a un comportement personnel, une recherche personnelle, une appréciation, une satisfaction. Quand je dis personnel, je pense aussi au côté collectif. C'est pas simplement l'individu, mais il y a un partage dans une satisfaction qui est un petit peu étrangère à la pensée de Dieu. Alors que nous devrions être animés aussi par cette pensée, nous avons à montrer ensemble quelque chose de Dieu. Est-ce que ce que nous vivons dit effectivement quelque chose de Dieu? Est-ce que nous pensons que son nom est associé à ce que nous sommes? Est-ce que nous disons véritablement la vérité quant à ce nom-là dans nos comportements, dans nos décisions, dans nos partages?
Il y a un exemple qu'on pourrait reprendre aussi, je ne sais pas, ça ne va pas à l'encontre de ce qui a été dit, mais c'est quand même très exerçant. Dans 1 Samuel 4, au verset 3, il est parlé là d'Israël qui doit monter, qui a été battu devant les Philistins, et le peuple doit poser cette question. Parce que dans l'exemple de Daniel qui nous est présenté, Daniel fait sa confession après avoir lu la parole de Dieu. Je dirais que c'est un exemple magnifique. Il comprend les choses, il marche fidèlement, il comprend, il marche dans la communion avec Dieu et donc il comprend l'humiliation. Mais là, le peuple doit dire, pourquoi l'Éternel, verset 3, pourquoi l'Éternel nous a-t-il battus aujourd'hui devant les Philistins? Voilà, c'est une question que le peuple pose et il semble ne pas l'avoir résolue, cette question. Et voilà qu'après, pour se justifier en quelque sorte, pour essayer d'être plus fort, prenons à nous de Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel et qu'elle vienne au milieu de nous. Comme si en quelque sorte, on se réclamait de la présence de Dieu pour être plus fort. Il y a peut-être un grave danger, je ne sais pas comment l'expliquer, mais au chapitre 7, alors on voit qu'il s'est écoulé après 20 années, au chapitre 7, verset 2, la maison d'Israël se lamenta après l'Éternel. Il se passa un longtemps, 20 années. Et Samuel parla à toute la maison d'Israël, disant, si de tout votre cœur vous retournez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les astorettes, et attachez-vous fermement de votre cœur à l'Éternel. Il y a certainement une leçon à comprendre là aussi, Dieu parle et on n'écoute pas, et puis si on se croit toujours avec la présence du Seigneur au milieu de nous, la revendiquant comme si c'était quelque chose qui était notre force, il y a là aussi un danger.
Il y a certainement, dans ce passage que tu cites, on voit qu'il y a un état de ruine très grand, et puis maintenant, voilà qu'on y ajoute la prétention. Et dans un sens, il n'y a rien de plus affreux que de vouloir lier, je dirais, la méchanceté à la vérité. L'arche, c'est la présence de Dieu. C'est Christ lui-même en figure, n'est-ce pas? Et nous savons que ça a été et que ça peut être un très grand piège pour nous aussi que de dire c'est ici la maison de l'Éternel, la maison de l'Éternel, ou de faire comme ici le peuple qui a pensé que bon voilà, bien ils avaient été battus, mais on allait en quelque sorte obliger Dieu à leur donner la victoire. Il suffirait de prendre l'arche avec eux dans le camp. Et en effet, les Philistins ont eu peur, mais dans un premier temps, mais ensuite Dieu a permis que l'arche même de Dieu soit prise. C'est quelque chose de terrible. Bon, mais il a fallu arriver, comme tu le fais très justement remarquer, à ce chapitre 7, ou alors, vraiment, c'est merveilleux de voir le travail là de l'Esprit de Dieu dans ce peuple. Il a suffi d'un simple petit verset, quand le peuple s'est lamenté, il y a eu vraiment une humiliation, et ils sont tournés vers Samuel, ils se sont lamentés, il est dit « après l'Éternel », fin du verset 2. Et alors, Samuel leur donne en quelque sorte le remède, il leur dit, il parle à toute la maison d'Israël en disant « si de tout votre cœur vous retournez à l'Éternel, eh bien, voilà, montrez des fruits qui conviennent à cette repentance, ôtez de vous, du milieu de vous les dieux étrangers, les astorettes, et attachez fermement votre cœur à l'Éternel et servez-le lui seul. » C'est clair, c'est si clair que souvent, eh bien, nous n'aimons pas bien sûr ce que la parole de Dieu vient nous dire, mais et ce qui est merveilleux, c'est de voir les fruits. C'est le verset 4, c'est très court. Il est dit, et les fils d'Israël ôtèrent les Baals et les Astorettes et servirent l'Éternel seul. Il n'a pas fallu, si j'ose dire, de longs discours. Non, mais on a vraiment accepté le remède et on s'est humilié devant Dieu comme il convenait. Et ensuite, le Seigneur s'est manifesté dans toute sa force et il a été, en effet, celui qui a apporté la victoire.
Dans Daniel 9, donc, le verset 13. « Alors, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, tout ce mal est venu sur nous, et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu, afin de revenir de nos iniquités et de comprendre ta vérité. » Il y avait donc là une prière à faire que le peuple n'avait pas fait. Implorer l'Éternel afin de revenir nos iniquités. Nous ne les voyons pas toujours, nos iniquités. Nous devrions les voir, puisqu'il y avait la parole là, de Moïse, et nous avons la parole de Dieu en main. Nous devrions les voir. Mais là, alors, il s'adresse à l'Éternel pour comprendre sa vérité, donc l'opposé de l'iniquité. Alors, nous n'avons pas imploré l'Éternel pour revenir de nos iniquités. Il fallait l'intervention de Dieu pour qu'il puisse comprendre ce qu'était l'iniquité et s'en retirer. Et pour comprendre ta vérité. C'est bien une prière que nous pouvons faire nous-mêmes, surtout de nos jours, que nous comprenions ce que Dieu appelle l'iniquité et que nous comprenions sa vérité.
Peut-être justement avec ce qui vient d'être dit, faire remarquer que Dieu ne laisse rien au hasard et que ce qu'il fait, il le fait avec raison, avec toute l'intelligence et la sagesse qui lui appartiennent. Pourquoi le peuple avait été déporté pendant 70 ans? Parce qu'en définitive, le pays n'avait pas joui de ses sabbats pendant 490 ans. Et que Dieu voulait que le pays se repose, cela est écrit à la fin du deuxième livre des Chroniques, au chapitre 36. Chapitre 36, il nous est dit, verset 20, « Il transporta à Babylone le reste échappé à l'épée, et ils furent ses serviteurs à lui et à ses filles jusqu'au règne du royaume des Perses, afin que fût accomplie la parole de l'Éternel, dite par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats. Tous les jours de sa désolation, il se reposa jusqu'à ce que 70 ans fussent accomplis. » Il y avait donc là de la part de Dieu un dessein très clair, très net. Il voulait que le pays se repose de ses sabbats. Bien souvent, nous ne comprenons pas pourquoi Dieu agit à notre égard de telle ou telle façon. Il a un but, il a toujours un but, et il ne laisse rien au hasard. Et nous voyons à la fin du livre de Jérémie que le peuple retombe dans ce péché d'oublier les sabbats. Et Néhémie reprend le peuple et dit au verset 18 du chapitre 13, « N'est-ce pas ainsi qu'ont fait vos pères de sorte que notre Dieu a fait venir tout ce malheur sur nous et sur cette ville, et vous voulez ajouter à la colère contre Israël en profanant le sabbat ?» Si aujourd'hui l'état des assemblées est ce qu'il est, c'est que peut-être nous n'avons pas bien saisi ce qu'elle était la pensée de Dieu à l'égard de son témoignage, et en particulier à l'égard de son témoignage collectif pendant le temps de l'absence du Seigneur. Et question que nous posons avec insistance, mais aussi avec douleur, qu'est-ce que nous avons fait, que faisons-nous de ce témoignage que Dieu nous a demandé de rendre en tant que peuple racheté et qui doit présenter la louange, sacrifier la louange dans le lieu saint. Comment y venons-nous? Qu'est-ce que nous y faisons? Pourquoi y venons-nous? Et quelles sont nos pensées lorsque nous nous approchons de la table du Seigneur pour rendre louange? C'est peut-être là que nous avons le secret d'une restauration dont nous avons tant besoin.
Il faut lire simplement, puisque nous sommes là, une portion de Lévitique 26. Nous avons quelque chose de très clair sur ce qui a été devant nous ce matin et sur ce qui vient d'être dit d'une manière particulière. Il faut lire quelques versets, nous allons les lire, c'est la parole de Dieu. Lévitique 26, verset 34. Alors le pays jouira de ses sabbats tous les jours de sa désolation. Quand vous serez dans le pays de vos ennemis, alors le pays se reposera et jouira de ses sabbats. Tous les jours qu'il sera désolé, il se reposera parce qu'il ne s'était pas reposé dans vos sabbats pendant que vous y habitiez. Et quant à ceux qui demeureront de reste d'entre vous, je ferai venir la lâcheté dans leur cœur, etc. Et nous allons un petit peu plus loin, au verset 39. « Ceux qui demeureront de reste d'entre vous se consumeront dans leur iniquité dans le pays de vos ennemis, et ils se consumeront dans les iniquités de leurs pères avec eux. » Verset 40. « Et ils confesseront leur iniquité et l'iniquité de leurs pères, selon leurs infidélités par lesquelles ils ont été infidèles envers moi, et aussi comment ils ont marché en opposition avec moi, en sorte que moi aussi, j'ai marché en opposition avec eux et que je les ai amenés dans le pays de leurs ennemis. Si alors leur cœur incirconcis s'humilie et qu'alors ils acceptent la punition de leur iniquité, je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, etc. » Et puis un petit peu plus loin à la fin du verset, aussi de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai de la terre aura été abandonnée pour eux, elle aura joui de ses sabbats dans sa désolation, etc. Nous voyons toujours cette ressource du cœur de Dieu. Et ce que nous trouvons ici, dans une intercession personnelle, dans une disposition particulière de Daniel, c'est la manifestation spirituelle de cette intelligence des pensées de Dieu. Et nous trouvons que quand la foi est là, véritablement, quand les intérêts divins sont véritablement dans le cœur, il y a souvent une intelligence spirituelle qui dépasse la connaissance. C'est quelque chose qui fait beaucoup de bien.